La sagesse de Duc. La sagesse de Duc. Bonsoir Jean-Tugue.
Bonsoir Renaud.
Alors exceptionnellement, cinquième jeudi du mois, parce qu'il y a cinq jeudis ce mois-ci, et donc on a cédé notre place à Sport Épique la semaine dernière, qui avait une émission un peu exceptionnelle sur le Vendée Globe, avec le skipper, enfin Mayenne, qui représente les couleurs de la Mayenne. Très bonne émission, donc on leur a prêté notre espace.
C'est tout gentil de notre part.
Je trouve aussi. Pas du tout une erreur de calendrier, pas du tout. Donc de quoi qu'on parle aujourd'hui? Eh ben, je te propose une phrase que j'ai trouvée intéressante et longue. Mais il y a plein de trucs grecs là-dedans et je pense que ça va être sympa. L'exercice de la philosophie contribue-t-il au développement de la démocratie?
Oui, effectivement, c'est intéressant. C'est un beau libellé en tout cas. Est-ce qu'on va savoir bien le traiter? Je ne sais pas, mais il y a deux mots qui sont l'exercice et le développement. Donc pour moi, ce sont des mots dynamiques.
Oui.
Alors que la philosophie et la démocratie sont des mots plus statiques, quoi. On sait, ça représente quelque chose plus que ça ne... Oui, que ça ne motive, quoi. Oui. La philosophie, elle existe, qu'elle soit avec nous ou sans nous, a priori, elle doit pouvoir exister. Oui. La démocratie aussi.
Oui.
Par contre, le mot exercice et le mot développement, eux... ajoute quelque chose d'intéressant. Ce que ça aurait pu être, la philosophie contribue-t-elle à la démocratie?
Oui. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas la philosophie contribue-t-elle à la démocratie.
C'est l'exercice de la philosophie contribue-t-il, du coup, non plus elle, au développement de la démocratie. Donc, on ne remet pas en cause le fait que la philo existe, et on ne remet pas en cause le fait que la démocratie existe.
Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais et oui, puis d'ailleurs, on ne remet pas forcément en cause le fait que la philosophie contribue par essence à la démocratie.
Mais pourquoi tu dis ça?
Parce que si on a besoin d'ajouter le fait que c'est l'exercice de la philosophie et de besoin de rajouter que c'est le développement de la démocratie, ça sous-entend que la philosophie de facto contribue à la démocratie. Maintenant, sous quelle forme, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est l'exercice qui contribue au développement? Ou au maintien, donc là on est plus sur le développement, pas au maintien.
Oui. Et non, il y a bien une notion dynamique dans tout ça. On sent que le fait qu'on se rattache à des principes philosophiques permet à la démocratie, alors est-ce qu'on peut dire de progresser, je ne sais pas, de se développer, mais alors dans quel sens? Est-ce que c'est en termes de qualité ou en termes de quantité?
Ah oui, ça on ne sait pas.
Oui, ça ne le dit pas. Est-ce qu'il y a plus de pays ou est-ce que c'est les pays qui sont déjà démocratiques le sont plus grâce à l'exercice de la philosophie?
Bon, on va essayer de déblayer tout ça du coup.
Oui.
Allez, on commence par les Grecs. Non, parce que là, la philosophie démocratie, à un moment donné, il va falloir y passer.
Ah bah, de toute façon, oui, ce sont deux notions typiquement sorties de la civilisation grecque.
Donc, philosophie, de toute façon, c'est eux qui ont inventé les deux.
Ce sont eux qui ont inventé les deux.
Donc, à partir de là, donc philosophie...
Et on peut même dire quasiment à la même époque.
Oui, quasiment à la même époque.
À quelques dizaines d'années près, quoi.
Disons que vu de nous, c'est à la même époque.
Vu de chez nous, effectivement, ce sont les mêmes.
Ce sont les mêmes, oui. Donc philosophie, on aime la connaissance, on aime la sagesse, on pratique la connaissance, on pratique la sagesse.
Alors la philosophie, oui, c'est ça. C'est aimer la sagesse... la connaissance, je crois qu'ils vont plus loin que ça, ils disent savoir. Partant du concept que on ne peut pas être sage si on ne sait pas.
On ne peut pas. Oui, 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 oui,
Voilà.
Bah, si on n'a pas le savoir, on ne peut pas avoir la sagesse, puisqu'on n'a pas le savoir, de facto, on ne sait pas. Donc,
si on ne sait pas, on ne peut pas être sage.
On manque de recul.
Donc, on peut quand même dire a priori que la philosophie a dû précéder la démocratie. La philosophie, c'est se poser des questions.
Oui, oui. Donc forcément, ça a précédé.
Donc logiquement, ça a précédé. La démocratie n'est pas arrivée par hasard. Ça a été une longue réflexion...
Avec du recul et de la...
Des philosophes.
Des philosophes, oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est lequel qui a réinventé la philosophie ?
Ah bah, le père de la philosophie, c'est Socrate, mon ami.
Non, non, mais je voulais te l'entendre dire. Socrate, qui a jeté les bases de la philosophie.
Oui. Oui, bon, est-ce qu'il a été franchement le premier ? C'est difficile à savoir. Mais en tout cas, c'est lui qui a permis à la philosophie de prendre la place qu'on lui connaît.
Oui. Oui.
Mais en fait, Socrate en a jeté les bases, mais ne les a pas écrites. Hein, puisqu'on sait que Socrate n'a rien écrit.
Oui, non, parler. Il ne faisait que parler, Socrate.
Il ne faisait que parler. Donc, c'est Platon, son disciple, qui a, lui, mis par écrit soit les propos de Socrate fidèlement, soit...
Oui.
On a traduit la pensée comme il le souhaitait.
Oui, ou son interprétation.
Socrate n'étant pas là pour le contredire ensuite.
Oui, c'est ça. Donc ça peut être aussi, oui, ça, son interprétation. Bon, peu importe au final.
Peu importe au final.
Au final, la philosophie est née à ce moment-là. Ça a jeté les bases. Donc effectivement, forcément, la démocratie est arrivée après.
Donc oui. Alors est-ce que... Parce que bon, c'est Athènes, hein, c'est la cité d'Athènes qui crée la démocratie.
En premier.
Et les philosophes sont tous des Athéniens. Est-ce que la démocratie existait du moins dans ses premiers préceptes ? Possible. Possible. Je pense que il devait y avoir déjà un embryon de quelque chose. Oui.
Mais non, mais à partir du moment où la démocratie est une naissance. Ça demande une sagesse et une réflexion, donc la philosophie était forcément là avant.
Oui, oui, oui. Non, de toute façon, il faut bien mettre les choses dans l'ordre. Oui.
Bon, après, est-ce que ça a une importance ? Je doute.
Alors, bon, après, philosophie.
Après, on a démocratie.
C'est quoi philosopher ?
Ah, philosophie. Donc, c'est quoi philosophie ?
Oui, c'est quoi philosophie ? A priori, ça n'est pas fait pour permettre à la démocratie de se développer. C'est pas son but.
Non, le but de la philosophie au départ, c'est plutôt quoi ? C'est réfléchir sur... prendre du recul, quoi. Enfin, réfléchir sur soi-même.
Exactement. Sur un certain nombre de concepts. On peut examiner, analyser tout ce qu'on voudra. Qu'est-ce que le beau ? Ça va jamais donner grand-chose au niveau de la démocratie. Hein, c'est...
Effectivement.
En fait, la philosophie, c'est l'apanage de l'humanité.
C'est l'apanage de l'humanité. Oui, on n'a jamais vu effectivement un animal philosopher.
Bah oui. La philosophie, c'est se poser des questions sur le pourquoi des choses, sur...
sur le pourquoi des choses, sans pour autant que ce soit a priori vital pour la suite. Vital.
Exactement.
au sens propre du terme.
Un peu la philosophie, c'est comme l'art, à la limite. C'est inutile.
Oui, c'est ça, c'est ce qui fait toute son utilité, comme l'art.
C'est inutile, néanmoins, l'humanité n'a jamais pu s'empêcher de philosopher, pas plus qu'elle s'est refusée la création artistique.
Oui.
Les deux font bien partie de l'humanité.
Donc la philosophie, c'est en fait réfléchir pour réfléchir.
C'est réfléchir pour réfléchir.
Oui. On parle de la démocratie, c'est quoi la démocratie ? Parce que là, je vois démos, je vois cratie, je me doute bien qu'il y a quelque chose là.
Tu le sais aussi bien que moi. C'est donc le pouvoir ou le gouvernement, non, le pouvoir, par le peuple.
Ouais, pouvoir par le peuple, c'est-à-dire que le peuple est souverain.
Voilà, c'est se donner l'idée, parce que ça n'est jamais qu'une idée, c'est un mot cher à Platon, que le pouvoir, oui, puisse être exercé par le peuple.
Alors, c'est exercé, c'est pas contrôlé, c'est exercé, là.
C'est là que ça commence à se corser.
C'est ça, c'est pas si simple que ça, je le sentais comme ça aussi. Ça m'avait l'air un peu facile.
C'est là que ça commence à se corser, même si, bon, Platon dit bien que c'est au peuple de...
Au citoyen.
Oui, c'est au citoyen d'assurer la destinée de la collectivité.
C'est ça.
Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ça suppose une organisation.
Oui, bah oui.
Donc ça suppose une représentation.
Et forcément. Forcément.
Et c'est là qu'évidemment, on commence à discuter un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui peut se discuter ?
Oui.
Qu'est-ce qui ne se discute pas ?
Oui.
Qui peut discuter ? Et qui ne peut pas discuter ? Tout ça, ce sont des concepts qui vont changer suivant les auteurs. Hein. La démocratie d'aujourd'hui n'était pas celle des Athéniens.
Oui, une question de vocabulaire près, mais...
Alors...
On avait discuté un petit peu de la démocratie athénienne. Hein. On avait dit, si ma mémoire est bonne, que déjà, il n'y avait que les citoyens qui participaient.
Oui.
C'est-à-dire tout ce qui n'était pas citoyen, en gros les esclaves, pour faire simple, ne participaient pas. Et après, on avait dit aussi qu'il y avait une juste répartition des différentes catégories, je ne sais pas si on peut dire ça, de citoyens, entre l'aristocratie, entre les gens qui travaillaient, etc. Et après, que parmi ces gens-là, il y avait un tirage au sort pour l'année de gens qui allaient représenter les autres, donc pour un temps donné, et du coup, c'est vrai que ça paraissait vachement bien sur le papier.
Et bien, il y avait les dèmes, il y avait les tribus. Et il y avait la boulée. La boulée, c'était le peuple. Il y avait 6500 représentants au niveau d'une ville, enfin d'un territoire. Parce que la cité d'Athènes était Athènes même, plus le territoire qui était aux alentours. Donc ils avaient divisé tout ça en trois. Il y avait les Athéniens, ceux de la ville, ceux de la côte et ceux de la campagne.
Oui, c'est ça.
Et... ils avaient ensuite mis des dèmes. Il y avait donc 10 dèmes. Et ce qu'ils en faisaient 30 en tout. Et on faisait des mélanges pour que ce soit une représentation globale, etc. Et il y avait des tirages au sort, oui, pour désigner ceux qui allaient participer réellement à la vie de la cité pendant un an.
Voilà, c'est ça. Donc là, on était vraiment sur une démocratie presque poussée à l'extrême.
Poussée à l'extrême, on peut le dire, oui.
Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire que la mention de la démocratie d'entrée de jeu... Ça met le curseur un petit peu à l'extrême.
Oui, oui.
Et je te propose qu'on continue cette conversation après une petite pause musicale.
Bien soit.
C'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix. Dis, emmène-moi voir au-delà du temps. Vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix.
Y'a ta vie, je l'avais pas vue, non. Non. Trop de gras, trop de bavure. Coloriage, c'est mes ratures. Sur la vie t'y atterrir, pas le temps c'est ton futur. Quand l'amour je vais te braquer, et ton champ est en pâture. Hey. J'y touche pas, c'est de la pure.
Dis, emmène-moi voir au-delà du temps. Vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix. Emmène-moi voir au-delà du temps. Vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix.
Alors, on était à Athènes, démocratie, naissance de la démocratie, démocratie, curseur à fond.
Voilà. Alors donc Platon, lui, avait une hiérarchie de la population. Il y avait En fait, il avait mis le principe être humain,
oui.
C'est des instincts,
oui.
Ce qui appartient aussi à l'animal.
Oui, oui, ça, ça va.
Le cœur.
Oui.
Le cœur dans son aspect fougue, courage.
Oui, d'accord, ok.
Oui. Et la tête,
d'accord.
Le cerveau. Évidemment, il a mis une hiérarchie là-dedans, tu penses bien.
Oui.
Donc, on a donc en bas les paysans, ceux qui produisent,
ouais.
Ceux qui sont près de la terre.
Oui.
La fougue, tu ne vois pas.
Les guerriers.
Eh bien oui, ce sont les guerriers.
Ça, c'était facile. La fougue, les guerriers, très bien. Et forcément, la tête, c'est lui.
Exact. C'est le philosophe. C'est le philosophe.
C'est ça. Ce qui n'est pas faux dans ce côté. Hein.
Ce qui n'est pas faux. Et il applique ça, tout simplement, au pouvoir.
Oui.
Donc, le pouvoir ne peut être assumé que par celui qui sait. Autrement dit, par le philosophe. C'est le philosophe roi.
Oui, c'est ça, d'accord. Il prêche pour sa paroisse, en fait. Ce qu'il dit globalement, c'est qu'il n'y a que des gens comme lui qui peuvent s'occuper dignement
de la destinée de l'État.
C'est ça.
Ce qui revient à dire qu'il donne le pouvoir à ceux qui sont les meilleurs. Et on a un mot français pour ça.
Ouh là là.
Qu'on a piqué largement dans l'Ancien Régime. On a utilisé.
Élite.
Abusivement. C'est le mot aristocratie.
Ah bah oui, forcément.
Qui veut dire pouvoir les meilleurs.
Mais oui, c'est pas comme si tu l'avais dit il y a moins de 2 mois, ça. Pouvoir par les meilleurs, exact.
Voilà, Platon, lui, est donc enclin à préférer une aristocratie.
Ouais, c'est son truc.
Ce qui n'est pas franchement du goût de la démocratie, quoi.
Ça va pas avec. C'est pas vraiment une démocratie, du coup.
Il y a un problème de représentation, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est clair.
Ça marche pas.
Ceci dit, on en a un autre, qui arrive juste après Platon. C'est, on en parle à chaque fois.
Oui, c'est ça, Aristote.
Aristote, voilà. Ça, vous suivez.
Aristote, bon.
Aristote.
Là, de toute façon, sans lui, on n'existe plus, là. On sait plus quoi faire. On n'a plus d'émission sans Aristote.
Oui.
Voilà.
Alors Aristote, lui, nous dit une chose. Enfin, il dit pas mal de choses, et franchement, autant je suis pas forcément d'accord avec lui, autant là, je le suis assez. Il dit il n'y a qu'une seule sorte d'être humain.
Oui, jusque-là, ça se tient.
Il ne fait pas de différence entre une seule sorte.
Ouais,
une seule sorte, sauf que
il est étonnant, ce garçon.
Il reconnaît qu'il y a les pauvres et les riches.
Oui, d'accord. Donc comme quoi c'est un phénomène récent. Hein. Ok, donc déjà, donc ça aussi.
Déjà, on n'a pas inventé grand chose au XXIe siècle.
C'est ça, ça fait mal, mais c'est comme ça.
Et là où il est quand même relativement intéressant, c'est que il voit pas comment, puisqu'il y a beaucoup moins de riches que de pauvres.
Oui.
Les riches pourraient seuls gouverner. Donc, il estime que la meilleure représentation, ce sont les pauvres.
Ah oui, je n'ai pas vu arriver celle-là, dis donc. Effectivement, ça se tient.
D'où démocratie.
D'accord, gouverne. Oui, mais c'est ça, puisque le peuple, au final, c'est là où il y a le plus de monde. D'accord.
Bon, ça n'empêchera pas derrière qu'évidemment. Les influenceurs seront ceux qui en savent plus que les autres.
Oui, mais enfin après c'est le principe.
Mais le principe est quand même intéressant.
Ah oui, parce que là c'est oui que Aristote en plus lui, bon, que Aristote commence à dire que comme il y a plus de pauvres que de riches, c'est les pauvres qui doivent avoir le pouvoir, tout au moins la
droit à la parole en tout cas.
Droit à la parole et une force décisionnelle pour pouvoir gérer son prochain, c'est étonnant. Mais bon, quoi qu'il se passe, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on est parti de, je l'ai perdu, Socrate, Platon, Aristote, on est quand même dans les philosophes à chaque fois.
Ah bah, de toute façon, on n'en sortira pas.
Oui, je sais. C'est un choix délibéré. C'est juste parce qu'à un moment donné, on va forcément finir par voir ce qui se passe aujourd'hui, et là, ça va être un peu moins. Donc, la démocratie, on est d'accord.
Non, mais bon, ce qui est intéressant quand même chez Aristote, parce que oui. Ça, c'était la première chose, il y avait deux choses qui me plaisaient chez lui, c'est la phrase que j'ai sortie une fois précédente. L'être humain, par nature, est un animal politique.
Oui. C'est lui, ça.
Oui, c'est lui.
Ah, je ne savais pas, j'aurais mis... Bon, on va faire quelqu'un d'autre. Mais,
c'est de lui. Un animal politique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut vivre qu'en société.
Oui, c'est ça, c'est pas le sens politique qu'on
a aujourd'hui.
Il a
une part de lui-même qui est chez l'autre, dans sa vie collective.
Il a une part... Oui, c'est-à-dire que...
Il y a une part de l'individu qui est dans la vie collective. S'il n'a pas cette approche... avec les autres individus de son espèce, il lui manque quelque chose. Il est inachevé.
Oui,
au sens propre du terme, d'après Aristote. Donc quelqu'un qui est banni n'est plus vraiment un être humain.
C'est ça, c'est un ermite, n'est plus vraiment un être humain.
Voilà.
C'est ça, oui, non, ça, d'accord. Oui, c'est au sens, sens politique, au sens ancien du terme, on va dire.
D'où cette philosophie qui dit que tout le monde a le droit... à participer à la vie collective.
Bah, plus
puisque une part de chacun est dans ce principe premier, matriciel.
Oui, donc ça va même au-delà, c'est que tout le monde doit participer.
Oui, du même coup, tout le monde doit.
C'est plutôt doit, puisque, puisque si tu... Le seul... Oui, à moins d'être ermite ou banni... Banni, c'est quand même un peu une punition. Donc à partir de là, non, on doit participer.
Alors, ils avaient un mot, je ne sais pas si tu le connais, mais est-ce que tu l'associes à ça? La démocratie grecque, tous les ans, avait le droit, d'ailleurs elle le faisait, d'exclure quelqu'un. Pendant un an.
Juste pour rigoler là, ça veut dire que les gens qui géraient le truc, ils avaient le droit de choisir une personne de manière complètement arbitraire, en fait.
Qui était bannie pendant un an pendant de la cité d'Athènes.
D'accord.
Et ça avait un mot, ça avait un... que tu connais très bien.
Ouais.
On a repris, mais on ne l'associe pas à ça.
Oui, donc je ne suis pas prêt de le trouver.
L'ostracisme.
L'ostracisme. Ah oui, effectivement, ce n'est pas du tout ça. Enfin,
l'ostracisme, c'était donc l'exclusion de...
Ah ouais.
Lors d'un dignitaire, hein, évidemment, c'était pas le.
Oui, bien sûr, oui. Oui, mais c'était quand même.
Le paysan au fond de sa campagne.
Oui.
C'était donc un dignitaire. On estimait qu'il en faisait un peu trop. Allez hop, pendant un an, tu vas réfléchir.
C'est ça, c'est un peu un délit de sa gueule ou. Oui, je pense qu'il y avait quand même une argumentation derrière. En fait, c'est un petit peu celui qui, c'est ça, qui se.
Ah bah, c'était un vote. Hein.
Oui, c'est ça, un vote, ouais, mais enfin, oui. Ah, l'ostracisme, ça viendrait de là, dis donc. Eh ben. Ouais, c'est intéressant.
Mais oui. Alors donc, la démocratie, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Est basée donc sur la prise de parole par le peuple.
Oui. Hein, bah oui, du coup, oui.
Forcément. D'où l'importance qu'ils attachaient à ça, à la rhétorique, à la dialectique, à la grammaire. Ce sont les trois... éléments du trivium médiéval. Il fallait savoir parler. Il fallait savoir discuter. Défendre ses idées. Sinon, t'étais foutu.
Oui, c'est clair, oui. Donc, attends, t'es en train de dire
d'où l'importance qu'il donnait à la prise de parole.
Attends, t'es en train de dire que tout citoyen...
S'il voulait se faire entendre, il fallait qu'il sache argumenter.
Donc ça, c'est-à-dire qu'il y avait forcément une éducation à un moment donné.
C'est pour ça qu'évidemment, il y avait que les meilleurs qui y arrivaient.
D'accord. Non, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que... Oui. Donc, en fait, ils étaient représentés de manière, je trouve, très représentative, justement, puisqu'il y avait un morceau de tout le monde. Un morceau de chaque endroit, de chaque... etc. À côté de ça, effectivement, pour se faire entendre, il fallait pouvoir parler, s'exprimer correctement, dans tous les sens du terme. Donc au final, on était dans la règle des 86, quoi. C'est-à-dire que tu as 7% qui tire dans un sens, 7% qui tire dans l'autre, et ce qui reste suit le mouvement.
Bah oui, ça n'a sans doute guère changé.
Non, ça c'est une règle actuelle en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est, le reste c'est moitié-moitié, le but du jeu étant de faire basculer une moitié, quoi. Mais d'accord. Oui, d'où l'importance effectivement de tout ce qui est dialectique, grammaire, etc. Par contre, il y a un truc que tu as dit, donc dialectique, j'en ai oublié un.
Rhétorique.
Rhétorique, grammaire, c'est le trivium.
Médiéval.
Alors, médiéval, c'est là que ça. Médiéval au sens.
Ben oui, non, c'est médiéval, au Moyen-Âge.
Ouais.
Dans les écoles.
D'accord.
Dans les universités. Mais pas que. Oui. Il y avait le trivium et le quadrivium qui étaient enseignés, et le trivium, c'est okay. Ça.
Bah c'est, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que venait faire le terme médiéval chez nos Grecs. Mais non,
donc
non,
en fait, on a poursuivi l'idéal grec du fonctionnement. Si tu ne sais pas parler, tu ne pourras jamais te faire entendre.
Oui, de toute façon, on a vu, je ne sais plus à quelle occasion, qu'Aristote avait une influence non négligeable sur toute la suite. Enfin, en tous les cas, dans notre civilisation actuelle.
Religion chrétienne.
Exactement. Bon, philosophie, démocratie, pas mal. Y a quand même quelque chose que je... Enfin, l'exercice de la philosophie, ça, si on revient un petit peu sur notre phrase initiale, le côté l'exercice, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement l'exercice? Le fait de la pratiquer, le fait de la faire pratiquer, qui la pratique, ça veut dire quoi?
Je ne sais pas très bien.
C'est ça, hein?
Je ne sais pas très bien.
Est-ce que c'est si l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple pratique la philosophie qui fait que, ou est-ce que c'est l'exercice de la philosophie, à la limite, par les gens au pouvoir qui fait que?
Oui, effectivement, on ne restreint rien avec ce mot-là. L'exercice, oui, c'est ce que tu viens de dire. On ne sait pas si c'est... il faut que le plus grand nombre possible de personnes puissent... philosopher, ce qui permet de contribuer au développement de la démocratie, ou si c'est l'exercice privé de certains qui en ont les moyens intellectuels ou de représentativité de la philosophie qui permet de...
Ça reste ouvert, oui, c'est ça, ça reste ouvert. Ça veut dire qu'il faudrait presque partir sur les deux cas pour voir... Et bien on va réfléchir à ça pendant un petit peu de musique et on en discute juste après.
Ok. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la morricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclette. Vêtu d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où, le long du rivage, les Allemands sont en nage.
Et c'est reparti.
Voilà, oui, pour en revenir à ce qu'on disait à l'instant, là,
oui.
On peut espérer que c'est un phénomène quantitatif qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut que le plus grand nombre d'individus puissent philosopher pour pouvoir contribuer à la démocratie, qui est justement le pouvoir par le peuple, donc par le plus grand nombre.
Oui, ça paraît logique et ça paraît rassurant. Ça paraît rationnel, surtout.
Ça paraît rationnel.
Plus il y a de gens qui se posent des questions qui, a priori, ne servent à rien, plus ça va permettre d'avancer, et ça va permettre aussi de maintenir un bon raisonnement pour pouvoir faire les bons choix.
Alors bon, qui ne sert à rien, en l'occurrence, il faut restreindre le propos, puisque... il s'agit, quand tu philosophes, avec une vision de la promotion du bien-être de la collectivité, ça veut dire que philosopher, ça veut dire prendre de la distance.
Oui, non, mais quand je dis que c'est rien,
c'est se détacher de l'immédiateté, des contraintes immédiates. Pour réfléchir à ce que ça pourrait être éventuellement de mieux ou d'autrement.
Oui, c'est prendre du recul et se poser face à un sujet de réflexion. C'est un petit peu ça. Donc là, c'est le côté idéal, enfin idéal. Alors,
ça, c'est certainement bon, c'est une version.
Une version,
effectivement,
voilà.
On en a exprimé une autre tout à l'heure, qui est...
Non plus le quantitatif.
Mais le qualitatif de ceux qui sont aux commandes. Et alors là, on entre dans une grande discussion.
On va rentrer sur des problèmes de critères déjà.
Parce que ça veut dire que on donne, on délègue à certaines personnes une représentation.
Oui.
Du plus grand nombre, sans savoir. Qu'est-ce qu'ils en font ? Sont-ils en mesure, type aristocratie, de pouvoir gérer correctement le mandat qui leur est confié ? Ou est-ce que y a des dérives, des déviations, des prises d'intérêt, des... On peut imaginer tout ce que l'on veut.
Oui.
Notamment quand un homme politique est carriériste, et à un moment donné, ce n'est plus le bien commun qui l'intéresse, mais le sien.
Oui, et puis même inconsciemment au final. À partir du moment où on vise une réélection, je pense que la première réélection, on la vise pour son parti, pour ses idées. La troisième, on la vise pour continuer à manger. Je pense qu'à un moment donné, c'est fatal.
Et pour le nom de la rue qu'on aura peut-être dans sa propre ville.
Oui, enfin, voilà, c'est ça. C'est, et effectivement, mais c'est marrant parce qu'il y a un certain nombre de pays en fait où les hommes politiques ne font pas carrière.
Ben oui. Oui, non, ça c'est je sais pas si chez. Ben, de toute façon.
Non, c'est assez. Les pays nordiques notamment.
Oui.
La notion de carrière politique ne veut rien dire, en fait. Ils ont un métier d'abord, ils prennent un morceau de vie pour s'intéresser à l'ensemble des autres, mais ils reviennent après dans leur métier. Enfin, c'est assez étonnant.
En France, ça devrait être ça. A priori, un président de la République ne peut pas l'être plus de deux fois, si ?
Non, pas plus de deux fois, ouais.
Mais par contre, un maire peut l'être 4 fois, 5
fois... Oui, ça, c'est pour ça qu'il peut y avoir en France une carrière politique. Mais après, il y a une question de culture et de mentalité. Je parlais des pays nordiques, il n'y a rien au niveau constitutionnel qui dit que... Mais c'est dans leur culture. Que c'est comme quand on fait un don, on fait un don de temps. Quand on s'occupe d'une association, bah, en fait, les gens qui sont un petit peu... ça fait partie de la culture de donner un morceau de sa vie pour les autres. Donc être maire, être ministre, être adjoint, mais ça n'a qu'un temps. Après, on cède la place à quelqu'un d'autre, on reprend nos activités.
Et encore faut-il pouvoir le faire.
Bah, c'est aussi le pays, c'est basé là-dessus. Non, mais c'est y a c'est culturel, justement. Nous, je pense qu'au final, aujourd'hui, début 21e, là, le gros des hommes politiques sont des gens qui n'ont pas de métier.
Qui ne l'ont plus, en tout cas.
Oh non, qu'on a même qu'on a un truc pipeau, mais qu'on n'a pas de métier.
Bah, ils ont bien dû démarrer quand même, sauf ceux de, bah, qui sortent de l'ENA, etc.
Ceux bon, là, effectivement. Oui, ceux qui sortent pas de l'ENA, déjà, donc, c'est une affaire réelle, ils n'ont pas vraiment de métier propre. Mais après, il y a un tas d'hommes politiques qui n'ont jamais travaillé au sens réel du terme, à part pour leur parti. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en jeunesse, je ne sais pas quoi. Ils ont été élus à un moment donné à un poste qui leur a permis de vivre un petit peu. Ils étaient à moitié payés par le parti, ils n'ont jamais travaillé. Enfin, ils n'ont jamais travaillé au sens, ils n'ont pas de métier. Mmh. Pour citer des connus locaux, on en a un, c'est le maire d'Angers. Il n'a pas de métier, il a toujours été élu. Non, mais c'est vrai, il a démarré en jeunesse, je ne sais pas quoi, il a toujours été élu. Nicolas Sarkozy.
T'es avocat.
Non, il était avocat parce qu'il est député. Au bout d'un certain... ou ministre, ou je ne sais plus quoi. C'est comme ça qu'il est devenu avocat.
Ah bon?
En fait, tu as une... Alors, je ne sais plus comment ça marche, mais on a une équivalence de droit à partir du moment où on a été ministre, je crois. Il y a quelque chose comme ça en France. Mais il s'est arrêté à la licence, il n'est pas avocat. Il est avocat de... C'est l'équivalent d'un VAE, en fait. Hein. Mais les hommes politiques français, en France, oui, si tu arrives à un certain niveau, tu es de facto avocat. Quand tu as un certain niveau politique. Mm-hmm. Avec le temps, aussi. Alors, je ne sais plus si c'est deux fois député, ou je ne sais plus, il y a des règles là-dessus. Mais Nicolas Sarkozy, il a pas été au-delà de la licence. Non pas parce que c'est un crétin, loin de là. Hein. Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas, à 20 ans, être adjoint à Neuilly et suivre des études. Enfin, ce n'est pas possible si on joue une carrière politique. Mmh. Et là, comme ça, il y en a plein, 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 plein.
Bon, donc, c'est pipé.
C'est ça. C'est ça que j'essayais ici.
La démocratie française est pipée.
Oui, on se doute pas que la nôtre. Hein.
Bon, ceci dit, ce qui est intéressant, les Athéniens ont rarement eu, en tout cas je n'en connais pas, mais je ne lisais pas tous les journaux tous les matins au 6e siècle avant notre ère, est-ce qu'il y avait des manifestations populaires? Je ne sais pas.
En tous les cas, oui, on ne sait pas ce qu'on retient.
Parce qu'ils avaient quand même, à côté de ça, toujours cette faculté, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'était la boulée, il y avait 6500 personnes, mmh. ce qui représente quand même pas mal de monde, au mmh. niveau d'une cité athénienne à l'époque.
Oui, hein, ça fait du monde.
Et tous avaient le droit à la parole. Mmh, il n'y avait pas de contraintes là-dessus. Donc s'il n'y avait pas de contraintes, il y avait moins envie d'aller manifester. C'est notre système actuel démocratique.
Oui, qui fait
qui est,
que.
Voilà, qui est enfermé finalement, d'une part, sur une espèce d'aristocratie.
Oui, complètement, oui.
Il faudrait trouver un adverbe à côté.
Mm-hmm. Une espèce d'aristocratie démocratique.
Justement, non.
Bah oui, 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 au final, oui.
Qui a enfermé finalement la démocratie. Et du coup, puisqu'elle est enfermée, de temps en temps, le peuple, lui, a envie de causer et se réveille.
Oui,
soit en manifestant au gré de lois, machin, mm-hmm. soit au travers des gilets jaunes, par exemple.
Oui, c'est ça, c'est une manifestation, puisqu'en fait, ça revient à dire qu'il n'y a plus la parole possible.
Voilà.
Ou tout au moins que la parole n'est plus représentative. Mm. Effectivement, à Athènes, il n'y a, oui, a pas eu, a priori, de manifestation particulière.
Donc c'est ça, finalement... En démocratie, en réalité, elle existe toujours, même si elle est enfermée au gré des partis politiques, au sein des partis politiques.
Oui.
Elle existe toujours, puisque on peut encore aller sortir dans la rue et dire ce qu'on a envie de dire.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas de certains pays qui se revendiquent démocratiques, mais qui en fait ne le sont pas, parce que tu ne peux pas sortir dans la rue sans se faire... Sans te faire tuer.
Oui. Oui, mais après, c'est un cas un peu extrême aussi. On est dans une extrémité. Je pense qu'il y a aussi un tas de pays qui sont des régimes où le citoyen n'a pas la parole, mais où on peut manifester, ça sert strictement à rien, et pour autant, on n'est pas tué.
Non. Non, non, bah, évidemment.
Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a
l'extrême. Enfin bon, la Russie, la Turquie sont bien des présidents élus avec des parlements, hein. Faut pas trop sortir non plus, hein.
Oui.
Tu vas pas te faire tuer, mais tu vas te faire arrêter, condamner, et t'es pas prêt de ressortir.
Oui, mais c'est ça justement. Et le problème, il est un petit peu là. C'est est-ce que ce sont encore des démocraties?
Ça en a la forme.
Mais ça en a pas le fond.
Ça en a l'odeur. Ça en a plus l'alcool.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, ça nous amène tout doucement, puisqu'on a parlé du quantitatif et du qualitatif. Puisque là, globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand il y a le quantitatif sur l'exercice de la philosophie, c'est un petit peu le gros de la troupe, le peuple, au sens très large du terme, qui réfléchit au truc, ce qui revient à dire qu'il a la parole, en fait. Quand c'est le quantitatif, ça revient à dire que c'est une petite élite qui est en capacité de réfléchir et qui, du coup, a priori, pourrait en profiter, peut-être, pour ne pas... pour prendre des décisions à titre personnel. Mmh. Donc ça, c'est très bien. Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire que ce soit quantitatif ou qualitatif, effectivement, notre démocratie, elle n'évolue pas de la même manière.
Eh ben non.
Et donc, c'est là qu'on arrive à la partie du développement de l'affaire. C'est quoi le développement d'une démocratie ?
Ça dépend de la définition qu'on donne, évidemment, du mot démocratie. Si on essaie de perpétuer le système tel qu'il existe, son développement, c'est le réduire au minimum.
Je commence à être perdu, là. si on part du principe qu'on a la démocratie, en prenant juste une définition simple, c'est que c'est le peuple est souverain, voilà.
Oui, il l'est toujours.
Oui. Donc c'est ça, c'est simple, c'est simple.
Le tout est de savoir donc si sa souveraineté est peut-être pratique, si elle peut arriver à modifier les choses.
Ah, c'est ça, donc le développement.
Bah oui, mais c'est oui. Bah, c'est ce qu'on disait au début. Hein. Là, on est en train de dire, est-ce qu'une démocratie peut être meilleure le lendemain qu'elle l'était la veille ?
Surtout, est-ce qu'elle peut évoluer ?
Et... Alors, a priori, elle peut. Pour autant que ceux qui détiennent le pouvoir l'autorisent.
On va réfléchir un peu à tout ça pendant quelques minutes. Allez, Jean-Fugues.
Oui, dernière ligne, donc.
Exactement.
Et elle est droite.
Ça elle est droite. Alors. Non, je reviens sur ce que tu as dit juste avant, là. Tu as dit que le développement de la démocratie, c'était l'évolution de la démocratie. Et tu as dit à partir du moment où ceux qui détiennent le pouvoir le veuillent bien.
Oui, mais on peut la faire évoluer à partir du moment où ceux qui détient le pouvoir autorise qu'elle, qu'elle évolue.
Oui, mais par définition, c'est le peuple, c'est le, la population qui détient le pouvoir, puisque c'est
une
démocratie.
Sauf qu'on a un problème de représentation.
D'accord. Oui, on a un problème de représentation. Donc en fait, la démocratie a évolué pour arriver, si on part d'Athènes, elle a tellement évolué qu'elle a disparu, puis elle est revenue. Elle est revenue, et quand elle est revenue, on a eu un problème, et on a toujours du coup, un problème de représentativité. Mais ça, c'est chez nous. Est-ce que c'est partout pareil ?
Je ne sais point.
Dans notre culture, enfin dans nos connaissances respectives, est-ce qu'on aurait une idée d'une démocratie qui aurait une meilleure représentativité ? Je suis malin, mais j'en vois pas.
Hein. Moi non plus.
De ce que je connais un petit peu,
moi non plus.
J'en vois pas.
Hein. On va vers soit le meilleur, soit l'absurde. mais il ne s'agit toujours que finalement d'une caste, quoi. En gros. Au sens le plus large possible du terme, quand tu vois Trump, tu peux te dire que, bon, effectivement, la démocratie a joué son rôle. On a mis un fou à la tête de la première puissance mondiale. Heureusement que les institutions en ont limité les effets néfastes.
C'est ça. C'est la machinerie démocratique, en fait,
qui a sauvé les États-Unis.
C'est ça, c'est la sécurité sur une machine, quoi. C'est fusible en un compteur, hein, parce que là...
C'est assez effrayant.
Et donc, ça, c'est pas plus mal, du coup.
Et à côté de ça, t'as des représentations... je sais pas, moi, l'Angleterre vit avec un Premier ministre qui gère, mais il y a une reine.
Mais l'Angleterre, c'est un peu comme l'Espagne, en fait. Hein. C'est une monarchie parlementaire, en fait.
Oui, oui.
C'est-à-dire que le roi ou la reine... la Belgique. Est-ce que ça a l'air de bien marcher, en fait, ça ?
Oui, parce que ça donne une certaine sérénité.
Il y a une morale, entre guillemets. C'est une morale. Une garantie morale du pays par le monarque.
Oui.
Mais la partie...
Et les affaires sont gérées par...
la population.
C'est pas idiot. Finalement, c'est pas idiot.
Non, mais paradoxalement, c'est peut-être même ce qui marche le mieux.
On a peut-être été un peu rapide environ Louis XVI.
Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est peut-être pas mal, ça. Cette espèce de... Parce que ça marche très bien en Belgique, ça marche très bien en Espagne.
Bon, ceci dit, t'as à peu près le même système en Italie. C'est pas un roi, c'est un président, mais il fait rien.
Oui, c'est ça, mais nous, on aurait dû rester comme ça, de toute façon.
Oui.
Et en Allemagne, c'est pareil.
Et en Allemagne, c'est pareil.
Ça marche pas si mal que ça, puisqu'on a séparé le côté... c'est pas moral, le terme, hein. je l'ai pas là, mais le côté un petit peu... Oui, moral, hein, le côté... Du côté action, et donc il y a deux entités, et ça temporise un peu.
Ça temporise un peu, c'est vrai. Et on a perdu ça, c'est De Gaulle qui a voulu tout gérer. Mais bon, c'est un autre problème.
C'est effectivement un autre problème.
Je pense quand même que ce fameux exercice de la philosophie...
Oui.
J'en préfère la définition du plus grand nombre.
Quantitatif.
Oui. Autrement dit, c'est l'enseignement.
Mais oui, je vais y venir.
Qui fait la différence. C'est la qualité de l'enseignement qui devrait permettre à chacun, chaque élève, chaque futur adulte, de prendre conscience de sa place et de ce qu'il peut apporter au sein d'une société.
Mais alors du coup, ça veut dire qu'on est plutôt sur la bonne voie. La philosophie.
On serait plutôt sur la bonne voie.
Bah oui, la philosophie est enseignée au lycée.
Mais hélas, qu'en terminale.
Mais les générations récentes étant de plus en plus intelligentes, on arrive à avoir des.
Comment ça, intelligente, on serait idiot ?
Non, mais je sais pas. Il y a 80% de réussite au bac, c'est qu'ils sont vachement plus forts que nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a
une bonne pandémie, ils dépassent les 90.
C'est ça. Non, mais il y a quand même une volonté depuis tout temps d'amener X pourcent.
Oui, de permettre au plus grand nombre d'arriver à un niveau.
Après, le niveau a peut-être, sans doute, même été rabaissé, mais quoi qu'il se passe, ça permet à un plus grand nombre d'accéder à des enseignements.
Oui, on devrait, je pense. Enseigner la philosophie bien plus tôt.
Et est-ce qu'on est assez mûr et assez grand pour le comprendre ? Est-ce que c'est pas plutôt intéressant d'enseigner la philosophie en dernière année de lycée, de manière à ce qu'une fois qu'on a bien compris et qu'on potentiellement on va peut-être un peu trop réfléchir, bon, on va ailleurs.
Non, je pense que, sans aborder Platon en seconde, on pourrait se commencer à se poser... C'est ce qu'on fait un peu en français.
Hein. C'est ça, ce que j'allais dire. En français, c'est un peu ce qu'on fait dès la seconde, d'ailleurs.
Oui, oui, avec les dissertations. C'est une première approche.
Oui, et puis surtout en lisant quelques auteurs... le programme de français de seconde et première, comme des auteurs qui sont aussi bien philosophes qu'écrivains.
Oui, c'est sûr que Montaigne ou Montesquieu, c'est pas en terminale qu'on l'étudie, c'est avant.
C'est avant, même sans aller dans une autre catégorie. Des gens comme Sartre ou Camus, c'est seconde terminale, ça. Seconde première. C'est des gens qui amènent la réflexion.
Oui, alors après, il faut que le prof soit prêt à ça.
Bah après, ça reste un enseignant, c'est-à-dire que c'est au programme. Mais
c'est au français, c'est du français, c'est pas encore de la philosophie.
Non, c'est ça, mais ça n'empêche que ça amène des questions.
Oui.
C'est ça l'idée générale.
Il faut que l'enseignant soit prêt à y répondre, ou en tout cas amorcer la discussion.
En général, ils sont des enseignants. Donc, tout ça pour dire que on serait plutôt optimiste, en fait, aujourd'hui.
On irait vers le mieux, c'est vrai.
On irait vers le mieux dans le sens où on se dit qu'on est plutôt dans le quantitatif sur le côté philosophique, sur le côté exercice de la philosophie.
Oui.
Concrètement, on est de plus en plus à réfléchir un petit peu aux choses, tout au moins à être en capacité de le faire.
Oui. Alors, est-ce que ça contribue au développement ?
Voilà, exactement. C'est exactement ça qui allait arriver. Est-ce que ça contribue au développement, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, peu importe.
Ou à la lucidité et à l'écœurement des gens face à la politique.
Et ben c'est ça.
Bien ça.
C'est ça, ben oui, mais c'est ça le risque.
Ben oui, bien sûr, à partir du moment où tu les rends sages et que ceux qui te gouvernent ne le sont moins, forcément, il y a un souci.
C'est ça, c'est un petit peu ça le truc. Alors, est-ce que du coup, c'est quand même une façon de développer la démocratie ?
Ben, à terme, oui.
Puisqu'à un moment donné, on va se retrouver avec des gens élus qui seront complètement déconnectés, puisque tout compte fait, ils sont représentants de 10% de la population.
Ils le sont, déconnectés. Ils le sont, mais pas forcément de leur propre fait. Il ne faut pas non plus tous les mettre au bûcher tout de suite. C'est que ils ont accès à une information que l'on n'a pas. Une partie de notre démocratie ne nous appartient plus.
Oui.
Elle est européenne.
Oui, mais ça, c'est...
Et elle intègre des données internationales, mondiales, l'économie, etc.
Oui, mais enfin, ça, c'est la... C'est une... À un moment donné, il faut bien que l'ensemble des hommes fassent une seule et même civilisation, quoi.
Oui.
On est parti d'Adam et Ève, quoi, et on arrive à des tribus, puis à des villes, puis à des pays, donc la logique, la suite logique, c'est une planète, quoi.
Oui, mais alors là, du coup, on ne parle plus de l'exercice de la philosophie sur un territoire donné, mais comme ce que l'on disait tout à l'heure, par le plus grand nombre d'individus sur la planète.
Oui.
Il faut que, parallèlement, tout avance.
Oui, mais bon, après, c'est des mouvements lents. Là, on commence par l'Europe, parce que nous, on est en Europe. L'Europe, il y a 50 ans, c'était 30 pays. Aujourd'hui, c'est toujours 30 pays, mais régis avec un certain nombre de règles communes.
Sauf qu'on n'est pas tous au même niveau, avec les mêmes idéaux, avec les mêmes systèmes démocratiques.
Oui, mais c'est ça. Pas loin, quand même. C'est vrai que c'est pas les mêmes systèmes, mais c'est quand même des systèmes proches. Je pense qu'on a sous-estimé le rôle d'un député européen en France.
Ben voilà. Quelque chose qu'on devrait faire. L'exercice de la philosophie devrait permettre ça.
Oui.
Qu'on appréhende des dimensions qu'on ignore totalement.
Oui.
Et on ne cherche pas vraiment, d'ailleurs, à nous dire... Bon, sauf que les lobbying européens, internationaux, sont plus forts que les députés, mais...
Oui, après, bon, je pense que le député, il vote hein, quand même. Hein.
Alors, oui, non, mais... Notre démocratie, je pense que malgré tout, elle est en danger. Même si, effectivement, on va vers le mieux par la prise de conscience des jeunes.
On est, c'est assez paradoxal.
Même il y a une génération, on était aussi.
C'est-à-dire que la démocratie est en danger, en gros, elle va dans le mur, elle est en danger.
Oui.
Mais paradoxalement, on gagne vers une évolution peut-être positive, plus intéressante, parce qu'il y a une prise de conscience, et justement, on revient sur le quantitatif, il y a un peu plus de gens qui ont cette capacité à raisonner, à se rendre compte des choses, et donc du coup, ça améliorerait à terme les choses. À la limite, ça risque même de mettre la démocratie dans le mur pour repartir
exactement
sur autre chose.
Exactement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, quitte à ce qu'on fasse la révolution.
Sans aller jusque-là, il y a des notions d'open démocratie, une chose comme ça, là, qui se mettent en place.
Mais c'est vrai qu'on va vers un schéma qui se ferme.
C'est ça, ça va
se faire. Une prise de conscience, mais en même temps, de toute façon, toutes les démocraties se replient actuellement.
Oui.
Globalement, quand oui. Tu vois le Brexit, c'est bien un repliement.
Oui, mais là, ouais, alors, en fait, le problème, c'est
Trump, là, c'était pareil, c'était l'Amérique aux Américains.
Le Brexit, il est lié justement à un problème de qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui étaient en capacité de faire de la dialectique, de la grammaire, etc. Et au final...
Non, mais la rhétorique, t'as pas...
La rhétorique, je n'y arrive pas, celui-là, je n'y arrive pas. En plus, c'est celui-là que je cherchais. Si on regarde bien, ça a été essentiellement un combat rhétorique sur le Brexit. Et
oui,
donc,
oui,
celle qui parlait le mieux, qui présentait le mieux, a gagné. Elle a gagné dans sa carrière, sauf qu'une fois qu'elle s'est retrouvée aux commandes, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une énorme bêtise basée sur des mensonges. Parce que ce qu'elle racontait, c'était faux. Mais au final, le pays est dans le mur.
Mmh.
Voilà.
Ah oui,
bah, et toute la suite, ce n'est que de la rhétorique et de la dialectique.
Mais ça n'empêche qu'un discours fermé fonctionne mieux qu'un discours ouvert. Quand tu disais, on est 30 pays, il va falloir qu'on fasse un seul, on en est plutôt loin. On est parti sur une autre...
On l'a vu avec le côté Covid, où chaque pays gère son truc dans son coin, alors qu'on devrait, à l'échelle mondiale, le gérer ensemble.
Enfin, voilà.
Donc effectivement, on est plus en train de se refermer en ce moment. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Donc, si on revient à ça, l'exercice de la philosophie contribue-t-il au développement de la démocratie? Oui.
De toute façon, la réponse était entendue.
Oui, bon, il y avait le mot philosophie et démocratie, forcément, on était d'accord. Donc la réponse est effectivement entendue. Ça contribue, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça peut faire avancer dans un sens positif, voire négatif. Après, c'est une question de point de vue.
Oui, puis bon, ça... le principe de la démocratie n'est pas à remettre en cause. On peut dire que c'est le meilleur des systèmes. Maintenant, c'est la façon de le faire vivre, cet esprit démocratique.
Oui, ou alors à la Churchill.
Ou alors
comme Churchill qui disait que la démocratie, oui, c'était pas le meilleur, mais c'était le moins pire.
Exactement, c'est pas la meilleure
et
des
je pense
choses,
qu'on
c'est
est
la moins pire.
Voilà, c'est ça, c'est assez vrai, en fait.
C'est exactement ça.
Donc, de toute façon, oui, il faudrait faire évoluer.
Donc, il faut qu'elle vive. Et c'est vrai que c'est avec l'exercice du plus grand nombre et de la meilleure qualité possible de la philosophie qu'on y arrivera.
Donc, en gros, hein, tous philosophes.
En gros, tous philosophes.
Eh ben, à dans un mois, Jean-Tuc, sur ces bonnes paroles.
À dans un mois. Au revoir.
Au revoir.